Donc, nous avons vu la strophe 44 du cinquième chapitre du Bodhicharya Avatara qui est sur l'introspection vigilante. Donc maintenant, comment protéger ces entraînements, ces pratiques du déclin? Que faire? Donc, la strophe numéro 45. Renoncez à vous attacher à toutes les conversations ineptes et aux spectacles sensationnels auxquels vous prenez part. Donc, ce que ça dit ici, c'est cela. Que parfois, un bodhisattva a aussi besoin de ne pas perdre de temps en faisant des sortes de conversations inutiles ou de commérages ou de discours et des choses comme ça. C'est supposé être un des entraînements. Mais parfois, c'est nécessaire de faire des conversations inutiles. Comme par exemple, si quelqu'un se sent seul ou si quelqu'un est malade et que vous voulez divertir cette personne, vous voulez être gentil et bon envers cette personne et lui donner de la compagnie, et ensuite vous tenez des bavardages inutiles, des propos non nécessaires et vous parlez juste de ce dont il veut parler ou de ce dont elle veut parler. C'est une bonne chose dans cet objectif, c'est ok, c'est nécessaire d'avoir des commérages et différentes sortes de conversations et de paroles communes et inutiles. Aussi, parfois, on a besoin de raconter des blagues ou des histoires inutiles et des choses comme ça, ou même d'interpréter des sortes de rôles ou de pièces de théâtre ou de participer à beaucoup de sortes différentes de festivals ou de choses comme cela. C'est nécessaire si c'est utile pour quelqu'un ou pour différentes personnes, alors c'est bon de faire cela. Mais c'est important de vous observer vous-même. Ne vous laissez pas prendre au jeu de cela et en devenant dépendant. Donc, par conséquent, même lorsqu'on participe à ces choses qui ne sont pas vraiment utiles ou productives ou importantes, assurez-vous que vous ne devenez pas dépendant vous-même à ces choses ou que vous ne devenez pas trop attaché à ces choses ou que vous ne laissiez pas ces choses devenir une tendance habituelle de ne faire que cela. C'est ce que ça veut dire, je pense. Ensuite, la strophe numéro 46. Si sans raison vous grattez la terre, y faites des gribouillis ou coupez de l'herbe, rappelez-vous les préceptes des bien-allés et que la crainte alors vous arrête sur le champ. Maintenant, c'est à propos des activités machinales. Bien sûr, si vous avez besoin de faire du jardinage, que vous avez à faire pousser des fleurs ou des légumes ou quelque chose, c'est bon, c'est ok, c'est utile. Mais si, sans la moindre utilité, sans le moindre objectif, sans la moindre sorte de besoin, vous jouez avec la terre en prenant, en arrachant la terre, en écrivant des choses sur le sol ou en tirant sur l'herbe, en prenant l'herbe comme ceci, ou en dessinant des figures sur le sol, et soit en perturbant les animaux sur l'herbe ou dans la forêt, ou en arrachant carrément des plantes, ou en les perturbant, et les herbes, et les fleurs, et les choses comme cela, ce n'est pas bon. Ce n'est pas nécessaire de faire cela. Donc c'est juste un exemple, je pense. Quoi que vous ayez à faire, essayez de voir quel est l'objectif. Y a-t-il un objectif? Y a-t-il quelque chose de bon? Y a-t-il quelque chose d'utile? Est-ce quelque chose qui est au bénéfice de quelqu'un d'une autre manière? Alors vous pouvez le faire. Si ce n'est pas le cas, alors pourquoi faire quelque chose? Et plus spécialement, si vous faites quelque chose qui, en quelque sorte, crée des problèmes pour quelque chose ou pour certains êtres, alors vous vous rappelez cela. C'est plus spécialement le cas pour les moines et les nonnes. Le Bouddha leur a donné des instructions de ne pas couper l'herbe, de ne pas perturber les plantes ou de ne pas les détruire. Donc, si vous avez besoin de faire cela pour un certain but, pour un but positif, alors vous devez le faire, mais sans aucun but, alors vous ne devriez pas le faire et vous devriez devenir entrer en pleine conscience. Faire les choses machinalement qui perturbent les êtres n'est pas une bonne chose, c'est ce que cela dit. Et ensuite, voici la strophe numéro 47. Quand il a envie de bouger ou de parler, l'être ferme commence par examiner son esprit et agit comme il convient. Donc, ceci, c'est la pleine conscience, être conscient. Quand vous voulez gigoter, aller quelque part, faire quelque chose, ou quand vous voulez dire quelque chose, que vous êtes sur le point de dire quelque chose, d'utiliser votre parole, alors immédiatement vous avez besoin de voir, vous avez besoin de regarder votre esprit et de dire que suis-je sur le point de faire, que suis-je sur le point de dire. La chose que vous allez faire, la façon dont vous allez la faire, la chose que vous allez dire, est-ce quelque chose d'approprié, est-ce quelque chose d'utile, est-ce quelque chose dont on a besoin, est-ce quelque chose de nuisible ou de non nécessaire? Si c'est quelque chose d'utile et quelque chose dont on a besoin et inspiré par une certaine sorte de bonne motivation, d'aspiration, en sachant comment et pourquoi vous allez le faire, allez de l'avant, faites-le, dites-le, quoi que ce soit, allez-y. Mais si vous trouvez que ce n'est pas comme ça, qu'il n'y a pas vraiment d'utilité ou de besoin aller quelque part, qu'il n'y a pas vraiment d'utilité ou de besoin, ou même que ce n'est pas bon de faire cela, ou même que ce n'est pas utile de dire ces choses, alors vous ne les dites pas. Donc, par conséquent, devenir pleinement conscient et conscient de vos propres actions, du corps, de la parole et de l'esprit, et ensuite, avec la pleine conscience et la conscience, et vous les faites de la manière correcte, c'est ça l'entraînement. Ça ne dit pas que chaque action que nous ferons sera toujours comme ça, mais le plus nous pouvons devenir conscients et le plus nous pouvons devenir vigilants, voire que les actions que nous sommes sur le point de faire et ensuite considérer si c'est nécessaire ou non, si c'est positif, alors le moins nous ferons d'erreurs, le moins nous créerons de problèmes et plus nous deviendrons positifs. Maintenant, ici sont décrites 27 choses dont vous devez être conscient et que vous ne devriez pas faire, pourrait-on dire. Si vous voulez pratiquer le dharma correctement et transformer votre esprit du côté positif, alors il faut être un peu attentif à propos de ces 27 choses. Maintenant, ces 27 choses, je vais essayer de les dénombrer, mais ça va être un peu difficile, je pense, mais laissez-moi voir. Maintenant, ça dit.
Quand il trouve dans son esprit de l'attachement ou l'envie de se mettre en colère, qu'il ne fasse rien, ne dise rien et reste comme un tronc d'arbre. Donc là, je pense que ce sont les deux premières. Quand mon esprit devient attaché et qu'il saisit quelque chose de plaisant comme les amis, la richesse et des choses comme ça, eh bien, je deviens trop attaché ou j'ai une trop grande soif pour quelque chose. Donc mon esprit devient comme ça et j'agis en accord avec cette soif. Ensuite, eh bien si je trouve ça, j'autorise mon esprit à ne pas vraiment agir, à rester comme un tronc d'arbre ou une bûche. Ceci est basé sur la compréhension que nos pensées et nos émotions sont fluctuantes. Elles changent en permanence, elles reviennent, mais elles partent à nouveau, et elles reviennent, et elles partent à nouveau, et elles reviennent. Si nous sommes fortement habitués à certaines émotions, alors elles peuvent revenir encore et encore. Mais ce n'est pas qu'elles ne partent pas, elles partent et ensuite elles reviennent à nouveau. Donc, par conséquent, une manière de nous discipliner nous-mêmes, une manière de nous entraîner, c'est quand ces sortes d'émotions négatives ou de pulsions ou de pensées ou de désirs s'élèvent dans notre esprit, alors, eh bien, vous retardez la réaction. Vous retardez la réaction. Quand vous voyez cela, ok, je suis sur le point de faire quelque chose, sur le point de dire quelque chose, sur le point de réagir d'une manière qui n'est pas bonne, qui n'est pas utile, qui va créer de la douleur et des problèmes pour moi et les autres. Je retarde la réaction et je reste comme une bûche. Bûche ici signifie un morceau de bois qui est coupé, qui repose juste sur le sol, qui ne pousse pas. Il est déjà mis à terre. Donc, même si le vent souffle, il ne peut pas bouger, il est totalement immobile. Donc, je deviens comme ça, je me fige. Donc, la première, c'est quand il y a beaucoup d'attachement ou de désir ou une trop grande soif qui survient, alors je fais comme ça. La deuxième, c'est si la colère ou la haine, beaucoup hein, de colère ou de haine, le dégoût, l'aversion ou quelque chose d'autre de similaire, alors je vais faire quelque chose avec trop de colère, et là aussi je fais comme ça. Ces deux sont les deux premières. Quand il y trouve de l'excitation, de la raillerie, de l'orgueil, de l'infatuation, l'envie de dénoncer les défauts des autres, de revenir à la charge ou l'intention de tromper. Donc ça, c'est la troisième, quand votre esprit est déchaîné. À chaque fois que je deviens déchaîné de corps, de parole ou d'esprit, non conscient de ce que mon corps, ma parole ou mon esprit font, et plus particulièrement quand je suis déchaîné parce que mon esprit est distrait, distrait par le désir, distrait par la colère et par des choses comme ça, quand mon esprit devient déchaîné, alors j'essaye de ne pas réagir. Quand je découvre cela, ça c'est la troisième. La quatrième, c'est quand je me moque. Ça veut dire que dans le désir de faire une plaisanterie qui ridiculise les autres, je fais quelque chose ou je dis quelque chose qui va faire que les autres vont se sentir mal ou insultés ou en quelque sorte rabaissés. Donc si ce type d'intention s'élève dans mon esprit et que je suis sur le point d'agir de cette manière, ou si je trouve que ce que je suis sur le point de faire, bien que ce ne soit pas mon intention, et bien que ça puisse arriver ou que ça puisse être perçu comme ça par les autres, alors j'essaye aussi d'arrêter d'agir. J'arrête ce processus. Ceci, je pense, est la quatrième. Ou rempli d'orgueil. Ça, c'est la cinquième, je pense, l'orgueil. Donc maintenant, l'orgueil. Nous avons parlé de ça auparavant. Il y a sept types d'orgueil l'un des types d'orgueil est l'orgueil simple ou l'orgueil léger. Ah, je suis bon, je suis bon, je suis meilleur. Ensuite, il y a un orgueil du genre je suis aussi bon que tout le monde. Ça, je pense, c'est l'orgueil simple. Je suis l'égal de tout le monde. Le deuxième, c'est je suis meilleur que tous ces gens-là. Je suis bien meilleur que tous ces gens-là. Ensuite, le troisième, c'est je suis meilleur que les grands. Je suis vraiment, vraiment bon. Ça, c'est un des orgueils. Ensuite, il y a je ne suis pas aussi bon que les très grands, je suis un peu moins bon que ça, mais je suis très bon. C'est aussi une forme d'orgueil. Ensuite, je suis. Vous savez, cette sorte de pensée à propos de moi-même qui est le plus subtil des orgueils. Peut-être que vous pouvez dire que c'est l'attachement à l'ego. Je suis. Je suis quelque chose de séparé de tout le reste, de tous les autres. Je suis. Et c'est aussi une forme d'orgueil. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'orgueil présomptueux. L'orgueil présomptueux signifie que je me sens, je pense, que comme si j'avais les qualités, des qualités que je n'ai pas vraiment. Je ne suis pas vraiment beaucoup instruit, mais j'ai le sentiment que je suis très instruit. Je ne suis pas un grand pratiquant, mais j'ai le sentiment que je suis un grand pratiquant. Donc il y a cette forme d'orgueil. Je ne sais pas si on les a, si on a couvert les sept là. Donc il y a l'orgueil de penser à moi-même comme à un être séparé, donc qui est la plus légère, la plus subtile des formes d'orgueil. Tout le monde a un ego. Ensuite, il y a l'orgueil léger. Ce petit orgueil du type je suis légal. Ensuite il y a l'orgueil d'être plus grand ou supérieur. Je suis meilleur, je suis supérieur, je suis meilleur que la plupart. Ensuite il y a le grand orgueil ou l'orgueil des orgueils, qui signifie que je suis meilleur que les meilleurs. C'est une sorte de mégalomanie, je pense. Ensuite, je suis un peu moins bon que les bons, que les meilleurs, mais je suis tout de même très bon. Ensuite, il y a le faux orgueil. C'est celui-là qui manquait dans la première analyse. Je suis orgueilleux de quelque chose dont je n'ai pas besoin, dont il n'y a pas lieu d'être orgueilleux. Habituellement, il n'y a rien, il n'y a pas à être fier, c'est une mauvaise chose, mais j'éprouve de l'orgueil à propos de ça. Je suis fier d'être fainéant, par exemple, ou je suis fier d'être en colère ou quelque chose. Fier de quelque chose qui en réalité n'appelle aucune fierté, c'est complètement le contraire. Et ensuite, il y a la septième. Vous avez l'impression que vous avez des qualités que vous n'avez pas, donc ce type d'orgueil. Ce sont les sept orgueils. Ça, c'était la septième, je pense. Non, la cinquième des 27 choses qui, lorsqu'elles s'élèvent en nous, eh bien, nous essayons de ne pas réagir. Ensuite, il y a aussi quelque chose de plus, l'arrogance hautaine, l'orgueil. Et le fait d'être hautain, riakspa. Il y a cinq sortes de riakspa. Riakspa, c'est le fait d'être hautain, mais il y a aussi le fait d'être présomptueux en même temps. Vous savez, je suis trop enflé à propos de certaines choses. Vous pouvez dire cinq. Bon, ce n'est pas important. Je suis d'une sorte de caste élevée, ou je suis d'une grande famille, d'une bonne famille, ou je suis jeune, ou je suis très beau, ou je suis très riche, des choses comme ça. Les cinq sont la famille ou la caste, la beauté ou le corps, la jeunesse, vos études ou le fait que vous soyez très intelligent ou que vous ayez beaucoup d'éducation, quelque chose comme ça, par votre éducation ou votre expertise. Et ensuite, il y a votre richesse. Être trop orgueilleux à propos de ces choses-là, ou être trop présomptueux de cela, quand ça survient, c'est la sixième. Et ensuite, la septième, c'est quand j'ai l'intention de mettre à jour les fautes des autres. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça. La huitième, c'est quand je suis la cause de dissensions, quand je veux créer des conflits ou des dissensions entre les gens. Quand ce genre de pensée survient, je ne devrais pas réagir. Et la neuvième, c'est quand j'ai des pensées, quand j'ai l'intention de tromper les autres. Donc ça, c'est la strophe numéro 49. Donc ça, ce sont parmi ce sont les 9 parmi les 27 choses que nous n'avons pas besoin de nous rappeler complètement, mais que nous devons juste considérer comme des exemples. Et probablement qu'il y a plus de 27 choses, mais en tout cas, il y a 27 choses qui sont mentionnées dans le livre. Merci.